Bereshit nous fait penser à beaucoup de choses, c'est la paracha du commencement, et ça implique une immensité de sujets qui touchent, on pourrait dire, au cosmos tout entier, puisqu'il s'agit de la création du monde, et également à l'histoire de l'humanité. Il y a simplement un thème qui, à mon sens, est, disons, central, qui est le foyer même de Bereshit, c'est la centralité de l'homme dans la création. Bon, vous allez dire, c'est banal. Nous savons que les anciens et même certains modernes ont toujours considéré que l'homme était le sommet, le couronnement de l'œuvre du Créateur. Mais il est intéressant de voir la manière dont c'est mis en valeur dans le texte de la Torah. En effet, la Torah nous parle, c'est une idée qui a été développée d'ailleurs beaucoup par Manitou, nous parle des 7 jours de la création. Et elle nous fait également un petit résumé à la fin de chacun des jours, ce qu'on peut appeler des jours de la création. À la fin du premier jour, il est dit « il fut soir, il fut matin, jour unique ». Et puis après, vous avez « il fut soir, il fut matin, jour deuxième, troisième, quatrième, cinquième ». Puis après, il y a une petite différence, « il fut soir, il fut matin, jour le sixième, ha-shishi ». Et puis après, intervient le 7e jour. Or, il est surprenant de voir que il n'y a pas à la fin du 7e jour cette phrase à laquelle on devrait s'attendre qui est « il fut soir, il fut matin, jour le 7e ». Ce n'est pas écrit. Cela signifie donc que le 7e jour n'est pas achevé, que toute l'histoire humaine se situe dans le cadre de ce 7e jour. C'est-à-dire le temps de la création où le Créateur n'intervient pas. Il cesse de créer et il laisse la place à l'homme. Il laisse une place à l'homme et l'homme doit réaliser un certain projet. Ce projet n'est pas dit explicitement dans le texte, mais on peut le comprendre. Il s'agit de la sainteté, puisqu'il est dit que Dieu a sanctifié le 7e jour, sans même trop savoir ce que signifie la sainteté. Eh bien, ça voudrait donc dire qu'un jour viendra où il sera écrit, où il sera dit. Et ils furent saints. Et Dieu vit que c'était bon. Il fut soir, il fut matin, 7e jour. Et alors commencera le 8e jour. C'est-à-dire que, selon le projet de la Torah, l'histoire de l'homme est une dynamique dans laquelle il y a quelque chose à achever dans l'œuvre de la création, et cet achèvement, c'est l'achèvement de la personne humaine. La condition humaine, c'est la condition d'un être qui est encore inachevé et qui va s'achever dans l'histoire à travers la dimension de la sainteté. Or, en quoi consiste cette sainteté en question? La sainteté, contrairement, disons, à l'idée du sacré qui est véhiculée dans certaines civilisations, la sainteté, c'est la relation immédiate, directe, entre l'homme et son créateur par le biais de la morale. Il y a en effet un projet moral qui est celui de l'homme et qui, quand il est réussi, est celui de la sainteté, d'une relation de face à face entre l'homme et son Dieu. En effet, il y a une petite particularité grammaticale dans le texte de la Torah, qui a fait réfléchir certains de nos maîtres, qui est que parfois la Torah emploie le terme de « yehi », ce qui veut dire « qu'il soit ». Par exemple, « que la lumière soit yehi or ». Et puis parfois la Torah n'emploie pas cette expression. Elle ne dit pas « yehi ». Elle dit par exemple que les plantes fleurissent. Elle ne dit pas qu'il y ait des plantes. Par contre, pour le ciel, pour le soleil et la lune, eh bien la Torah emploie le terme de « yehi ». Ce qui veut donc dire qu'il y a des éléments dans la création qui sont permanents. Il y a en permanence de la lumière, en permanence vous avez le ciel, en permanence il y a le soleil, la lune et les étoiles. Par contre, pour ce qui est de tout ce qui est biologique, aussi bien pour les plantes, pour les animaux que pour l'homme, la Torah n'emploie pas le terme de yehi. En effet, nous savons que tout ce qui est biologique est également mortel. Par contre, il y a une deuxième expression, vayehi. Vayehi, qui veut dire « et cela fut ». Par exemple, que la lumière soit et la lumière fut. Or, l'expression vayehi n'est employée que pour 2 créatures seulement, pour la lumière et pour l'homme. Ce qui a fait dire à nos maîtres que il y a une deuxième permanence, on pourrait dire une sorte d'éternité dans l'avenir, qui est l'éternité de la lumière et l'éternité de l'homme. Ce qui voudrait dire que dans le monde à venir, il reste la lumière et l'homme dans un face-à-face d'amour envers le Créateur. Et c'est intéressant de voir que la Torah nous parle ici d'un passage de l'homme idéal à l'homme réel, à l'homme historique. L'homme idéal, l'homme, disons, au-delà du réel, c'est l'homme dans le Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden est un lieu spirituel évidemment, et non pas un lieu géographique. En effet, c'est une banalité que quand quelqu'un quitte ce monde, eh bien la famille dit « Ah, eh bien il est au Jardin d'Éden, il est dans le paradis ». Ce qui veut donc dire qu'il s'agit de la vie de son âme, et non pas de sa vie terrestre. Et la Torah nous raconte, par tout un récit extrêmement détaillé, que vous connaissez certainement, l'histoire du fruit défendu et tout ce que ça implique, eh bien elle nous raconte comment est-ce que cet homme idéal, cet homme édénique, passe finalement dans l'histoire et devient l'homme historique. Et l'homme historique est renvoyé du Jardin d'Éden. Quelle est la différence entre les deux manières d'être? Quand on est dans le Jardin d'Éden, dans le paradis, alors on est jugé en fonction de la capacité que nous avons à respecter, à observer la volonté du Créateur. C'est une relation directe. Mais à partir du moment où nous vivons dans l'histoire, Dieu est caché. Et dans une histoire dans laquelle Dieu est caché, c'est la relation de l'homme envers son prochain qui va le juger. Et c'est pour ça que le Talmud nous dit « Celui que les créatures aiment, il est aimé par le Créateur ». C'est-à-dire que la relation que je pourrais entretenir avec Dieu, et la relation directe, si c'était possible, si j'étais dans le Jardin d'Éden, eh bien cette relation est à nouveau transmise à travers l'histoire des hommes dans la relation de l'homme envers son prochain. Et donc le péché de l'homme historique n'est pas d'avoir consommé une pomme, mais d'avoir assassiné son frère. Et c'est ça qui va juger la réussite ou l'échec de l'humanité, la violence. Est-ce que l'homme va utiliser sa capacité extraordinaire de dominer le monde pour tuer son prochain ou pour lui donner la vie? Et c'est ça dont il est question dans le livre de Bereshit, jusqu'au moment où finalement, on accède à une situation où une famille de frères qui voulaient se tuer vont faire la paix. Je parle ici de la famille fondatrice du peuple d'Israël. Il s'agit ici de Joseph et de ses frères. Quand ils vont faire la paix, c'est alors que le projet de Bereshit est assuré de réussir. Et c'est alors que l'histoire pourra commencer dans le livre de Shemot. Il est intéressant de voir que la Torah nous parle dans ce récit de deux lignées humaines. Une lignée qui sont les descendants de Caïn, l'assassin, et une autre lignée qui sont les descendants de Seth, celui qui remplace son frère Abel après qu'il ait été tué par son frère. Et si on analyse très précisément et attentivement le texte, on se rend compte que la famille de Caïn a réussi à fonder la civilisation technologique humaine. Mais dans le sens le plus large du terme, c'est dans cette famille qu'est née la musique, l'art, l'économie, la technologie, les plaisirs et les loisirs. Tout cela a été fondé par la famille de Caïn. Et dans la famille de Caïn, on pourrait dire que l'idéal humain se résume en un seul terme, la richesse. La richesse, évidemment, dans le sens le plus large du terme. Quand on observe les descendants de la famille de Seth, on se rend compte qu'ils sont tous des sages. Ils sont attachés aux voies de Dieu. Par exemple, Hanoch est celui qui chemine avec Dieu. Vaïtaler Hanoch et Elohim. Et on pourrait donc résumer l'idéal humain dans la famille de Seth par un seul mot, la sagesse. Est-il difficile d'être riche? Non. Si on s'y consacre exclusivement, on le devient. Est-il difficile d'être sage? Non. Il suffit de se consacrer totalement à la sagesse pour être sage. Ce qui est difficile, c'est de faire l'union des deux, du matériel et du spirituel, du terrestre et du céleste. Pour cela, il faut un troisième terme, le vaillant, en hébreu, gibor. Et le Talmud affirme qu'on ne peut pas être prophète si on n'a pas les trois données, si on n'est pas à la fois riche, sage et vaillant. Or, comme ce sont deux lignées qui sont spécialisées, pourrait-on dire, dans la sagesse ou dans la richesse, eh bien ce projet ne pouvait pas réussir tant qu'il n'y avait pas eu union des deux. L'union des deux s'est réalisée dans la famille de la 10e génération quand Noé, qui est un descendant des sages, va épouser Naama de la lignée des riches, de Tuval Caïn et de Caïn, et cela va donner une nouvelle humanité dont la Torah nous dit « Hema Hagiborim », ce sont eux les vaillants. C'est-à-dire les vaillants, Shem, Ham et Yéphet, les fils de Noé, sont les fondateurs d'une nouvelle humanité. Ce qui est dangereux, quand une partie de l'humanité arrive à un stade supérieur sur le plan moral, cela met en accusation l'autre partie qui n'a pas accédé à ces dimensions morales, et alors le déluge devient possible. Cette conclusion, pourrait-on dire pessimiste, invite à une analyse de l'éventualité de la catastrophe de l'humanité et comment s'en sortir. Mais ça, c'est pour la prochaine paracha.